Effectivement, on est une société cotée en bourse. Les actionnaires, au début, ils ont regardé avec des gros yeux Ray Anderson quand il a voulu faire ça. Et avec beaucoup d'éducation, d'enseignement et de compréhension, ils ont vu également qu'on pouvait rester profitable avec cette stratégie, et voire même développer nos marchés, gagner de l'argent tout en faisant les choses de la meilleure façon.
Bienvenue dans le podcast Activer l'économie circulaire.
Je suis Brieux Saffray.
Je suis Justine Laurent.
Nous sommes fondateurs de l'agence de conseil et design Circulable. Nous travaillons avec les entreprises, collectivités et entrepreneurs pour concevoir leurs stratégies, produits et services et ainsi apporter des solutions aux enjeux de ressources et de résilience des territoires.
Dans ce podcast, nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de dirigeants ou de porteurs de projets qui appliquent les principes du vivant et la pensée systémique pour concilier développement économique, inclusion sociale et régénération des écosystèmes.
Vous pouvez nous retrouver sur le site circulable.com ou sur les réseaux sociaux.
Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour rester à jour sur les meilleurs exemples d'économie régénérative.
Bonne écoute à vous.
Bonjour Mickaël.
Bonjour.
Je suis très content d'être avec toi aujourd'hui, d'autant plus ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu.
Oui.
Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît?
Oui, bien sûr. Donc, je suis Mickaël Cornoux, responsable marketing et communication France pour la société Interface, qui commercialise des revêtements de sol pour les secteurs professionnels. Donc, pour les bureaux, l'hôtellerie, l'éducation, les magasins et autres projets professionnels.
Ok. Bah, je suis très content de te voir, d'autant plus que... Il y a quelques années, Nicolas était venu rencontrer Laure,
oui.
Laure Rondeau à l'époque, qui était plus en charge de toute la partie communication et puis les projets autour vraiment sustainability, comme
vous dites,
Interface, qui nous avait notamment présenté Networks.
Oui.
Et donc, bah, on va y revenir au fur et à mesure, mais déjà, à l'époque, il nous avait très bien présenté d'ailleurs la mission zéro,
oui.
Avec le fondateur et Anderson, etc. Qu'est-ce qu'il en est de cette fameuse mission zéro aujourd'hui?
Ah, alors mission zéro, tu veux que je le résume un petit peu ou...
Ouais, ouais. Tu m'as par exemple pour faire une petite piqûre de rappel, mais parce que effectivement, ça a été commencé au milieu des années 90.
90, c'est 94 le point de départ. En fait, mission zéro, c'est un engagement qui a été mis en place par notre fondateur Ray Anderson, comme tu l'as dit. Et qui consiste, de manière pas du tout ambitieuse, à réduire totalement tout impact négatif que nos actions et notre société pourraient avoir sur l'environnement. Donc concrètement, c'est vraiment supprimer toutes les émissions, utiliser zéro consommation d'eau, entrer tout simplement d'une économie linéaire à une économie circulaire, en trouvant d'autres sources d'approvisionnement. Donc c'est vrai que c'était assez ambitieux, hein, surtout en 94, puisque l'engagement est assez simple, hein, c'est pas réduire de 5, 10, 15, 20, 50% nos émissions, mais c'est vraiment être à zéro. Ce qui était assez intéressant et précurseur aussi, c'était d'avoir une deadline, hein, puisque j'ai oublié de le dire, mais la deadline c'était 2020. Donc bon, aujourd'hui c'est vraiment demain, donc 2020, on y est. Qu'est-ce que je peux te dire? On n'y est pas encore au zéro, mais je peux déjà te dire qu'on va y arriver et que pour 2020, on sera encore dans les temps. Si je te fais quelques résumés de chiffres, aujourd'hui, on est à 96% de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre au niveau global. Hein. Donc,
alors, tu veux dire sur tous les pays ou sur tout le cycle de vie du produit?
Alors, sur tout le cycle de vie du produit et sur tous les lieux de production. Donc,
d'accord.
Vraiment sur l'activité interface au sens global, dans la fabrication de nos produits. Donc, quand on prend les 6 usines dans le monde et qu'on voit les émissions qui étaient créées en 96, mm-hmm. parce que les premiers résultats étaient en 96, et aujourd'hui, on a diminué de 96% ces émissions. Ça, c'est un premier exemple. Alors après, j'ai parfois des chiffres un peu variés en fonction des sites de production. Alors je vais faire mon européen. En Europe, on est passé à 100% de réduction, 100% de réduction de la consommation d'eau, puisqu'on est sur notre site de Scherpenzeel en Hollande, dans un circuit fermé. Donc on n'a plus du tout d'intrants en eau et pour fabriquer nos produits qui demandent de l'eau, en fait, on est dans un circuit fermé en passant par du refroidissement et du réchauffement qui permet de ne plus consommer d'eau. Si je passe à niveau mondial, on est à 88%.
D'accord.
Ce qui est déjà un bon résultat, un excellent résultat sur tous les sites de production. Après, en termes de produits, quand on vraiment on rentre dans le détail du produit, on est à 63% d'utilisation de matières premières recyclées ou biosourcées. Alors, on reparlera de networks, mais effectivement, là où il y a encore quelques temps, nos fournisseurs de fibres nous disaient qu'il était impossible de recycler et donc d'obtenir une fibre recyclée pour la dalle de moquette. Aujourd'hui, on a réussi à trouver cette alternative avec nos partenaires et créer des produits qui sont 100% recyclés. Donc, quand on prend vraiment tout notre portefeuille produit dans le monde, on est à 66% de matières recyclées ou biosourcées. L'idée est, dans un an, de l'intégrer dans tous nos produits et d'arriver à 100% recyclés ou biosourcés. Dans les chiffres qui sont vraiment importants, c'est vrai que là, je te parle de réduction de recyclage, mais on a réduit notre consommation d'énergie de 43%, ce qui est assez important également, puisqu'il n'y a pas uniquement trouver l'alternative, mais aussi voir si on ne peut pas être beaucoup plus efficient et réduire ce qu'on utilise. Donc sur les sites de production, ça a été réduit de 43%, et ensuite, sur les 57% restants, on passe sur de l'énergie renouvelable. On est à 100% énergie renouvelable, que ce soit l'électricité, le gaz, sur les sites. Et donc, en résumé, quand on voit sur la CV de nos produits et sur l'empreinte carbone de nos produits, on a réduit l'empreinte carbone de nos produits de 66% aujourd'hui. C'est sûr que les 34% restants vont être les plus compliqués, mais quand on s'était vu il y a 2-3 ans, on était à peine à 23%, on arrive à...
Il y a un gros gap en 2-3 ans.
Déjà. C'est ça, l'idée... Il y a un gros gap parce que aussi l'innovation maintenant est là, et quand on parlait de fibres 100% cyclées, hein, qui a vraiment un impact nettement réduit par rapport à une fibre vierge, la première, elle est sortie en 2011. Donc du coup, il y a eu tout un travail d'abord pour créer cette fibre et ensuite l'intégrer dans tous nos produits.
Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que vous avez été un peu les premiers à le faire dans le domaine, mais que votre mouvement, en fait, votre innovation, elle a, entre guillemets, provoqué des gros changements chez
sur les marché, concurrents. Chez les concurrents, tout à fait. Ça, vraiment, c'était un des 7 axes, hein, d'ailleurs. Un des 7 axes, lorsque Randerson a mis en place cet engagement et ce nouveau business model, un des 7 axes, c'était la sensibilisation des parties prenantes. Et dans la sensibilisation des parties prenantes, les concurrents sont une partie prenante à part entière. La vision de Ray Anderson était une vision interface, mais l'idée de changer l'industrie était déjà là. Donc oui, l'idée, elle est d'interface, mais Ray Anderson ne voulait pas juste être l'entreprise durable au milieu de confrères qui n'auraient pas accès à ces innovations, et dès le début, a voulu partager les innovations. Alors, je ne dis pas toutes les innovations, on a toujours de l'avance sur les procédés de Tuft, sur la manière dont on va intégrer nos
produits. Avant d'utiliser les jargons techniques.
Le Tuft, c'est le tissage. Donc, en fait, vraiment, quand on crée une dalle de moquette, c'est comme quand on tisse sur un textile classique. Donc, on dit Tuft, mais vraiment, les matières qu'on a, la fibre qu'on va avoir, va être utilisée différemment pour Tuft et tisser afin de rendre un motif particulier. Donc tout ça, on a à peu près entre 7 et 10 ans d'avance d'un point de vue innovation. Donc oui, la matière peut être utilisée par nos confrères, et c'est super de pouvoir changer le marché, hein. Mais ça reste quand même un gros avantage. Et on parle de... je reprends l'exemple du 100% recyclé. Je te disais qu'on l'a sorti en 2011. On a eu une exclusivité pendant 6 mois, je crois, ce qui est dérisoire, hein, sur un marché de la construction. D'un point de vue marketing, nous, on regardait le directeur, mais c'est pas possible, on peut pas faire ça, ça reste un gros avantage. Et non, en fait, c'est vrai que c'est hyper important, parce que si aujourd'hui, dans un marché de la construction qui se veut de plus en plus vert et avec des vraies certifications environnementales, c'est super de se dire que oui, on a le choix entre plusieurs solutions qui vont intégrer le 100% recyclé ou du recyclé. Après, si le client veut vraiment entrer dans le détail du produit et voir vraiment où Interface est vraiment plus avancée dans l'intégration de ces innovations dans ses produits, on a les EPD de nos produits, Et encore une fois, les EPD, c'est quelque chose qui n'était absolument pas obligatoire.
Alors, les EPD, pareil.
Les fiches de déclaration environnementale, dans lesquelles on peut trouver vraiment toutes les informations en termes d'empreinte carbone et d'empreinte environnementale de nos produits. C'est vraiment l'outil phare pour pouvoir mesurer différentes solutions.
Ouais.
Et donc, nous, on a voulu imposer en interne les EPD avant 2012. Et depuis 2012... c'est devenu une norme dans le secteur du bâtiment.
Ok, très bien. Et justement, on a parlé de mission zéro. Il y a eu pas mal de changements, vis-à-vis de cette date qui se rapprochait.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a beaucoup de choses nouvelles, que des bonnes choses. Déjà, on a un nouveau PDG. Qui s'appelle Jay Gould, puisque donc Ray Anderson est décédé en 2011. Et on a eu un nouveau PDG qui a pris la tête de l'entreprise il y a 3 ans maintenant. Et ça, c'est assez drôle, parce que c'était un peu tout comme moi quand je suis arrivé, où le développement durable, l'environnement, c'était un peu des gros mots, je ne savais pas trop de quoi en parler. Et notre PDG, c'était pareil. c'était, il le dit lui-même, et c'est super de parler avec lui, parce que il est arrivé dans une entreprise où vraiment, quand on arrive ici, on se rend compte que c'est la force et la chose la plus importante chez Interface, c'est le développement durable. Et quand notre PDG vient de secteur totalement extérieur, il n'était même pas dans le bâtiment, on lui parlait d'EPD, de 100% recyclé, de tout ça, il ne savait pas de quoi on parlait. Et alors quand on est arrivé, on lui disait « Alors mission zéro, c'est comme ça, on veut y arriver, oui, mais en fait on va être encore plus ambitieux. » « Ah, on va être plus ambitieux, ben oui, parce qu'il y a 3 ans, les personnes vraiment qui sont au cœur de la stratégie environnementale d'Interface se sont rendues compte que le zéro n'était plus suffisant et que si on voulait aller plus loin, fallait voir comment on pouvait aller au-delà du zéro.
Bon, devenir régénératif. Ouais,
voilà, c'est un peu du teasing, mais oui, devenir restaurateur finalement, qui était un des projets de Anderson. Il avait déjà parlé, il avait déjà évoqué ça en disant je veux qu'on arrive à zéro et à terme devenir restaurateur.
Ouais.
Et alors donc là.
Il y a encore une différence un peu entre restaurateur et régénératif. Ouais. Dans le sens restaurateur, on va remettre.
Ce qu'on a pris
en état, quoi.
Voilà.
Et régénératif, on va créer. Permettre de faire revivre
exactement, c'est vrai. Et donc Jay Gould a vu l'importance de Mission Zéro et a vu l'importance de devenir.
Alors, je me permets de couper parce qu'il y avait aussi un aspect qu'on avait évoqué avec Laure et puis pendant des discussions informelles aussi, c'est le fait que la raison d'être aussi, tu l'as évoqué chez Interface, elle est inscrite jusqu'à l'actionnariat finalement. Enfin, je veux dire, il y a personne qui peut arriver et dire tac, tac, on passe à autre chose.
C'est ça.
Et c'est ça qui est assez incroyable. Et il y a pas mal d'épisodes qu'on vient de publier, notamment avec Gilles ou même avec Emmanuel dont je te parlais tout à l'heure. Donc les épisodes 22, 23, si je me souviens bien. En gros, où cette notion de raison d'être, on essaye de vraiment l'illustrer. Et justement, là, pour le coup, Interface, c'est extraordinaire parce que c'est dans les gènes de l'entreprise.
C'est dans les gènes.
Il peut y en avoir.
C'est vrai que c'était, pour rebondir sur ce que tu dis, déjà, la grande force, c'est que c'est arrivé de Ray Anderson. C'est arrivé de notre PDG. Donc, du coup, au départ, là où c'était pas du tout dans l'ADN, c'est arrivé de lui, c'est sa société, il l'a imposé, il a bien fait. Mais en gros, les personnes qui travaillent pour Interface, soit vous le prenez, soit vous partez. Mais il faut. C'est tellement au quotidien chez nous que si ça ne nous intéresse pas et si ça ne nous parle pas, ce qui serait complètement bizarre aujourd'hui de se dire que ça ne nous intéresse pas, mais en tout cas, c'était important. Et c'est vrai que c'est passé de Ray Anderson à tous les services, c'est-à-dire qu'on n'a même pas de service RSE ou développement durable dédié. C'est-à-dire que c'est vraiment dans le quotidien de toute personne, que ce soit nos employés à l'usine, les services commerciaux qui vont raconter l'histoire et qui vont faire comprendre à nos clients l'importance de ça, les services marketing qui vont en discuter, mais également le service technique, le service client, tous les services de l'entreprise doivent intégrer cela. Et du coup, quand tu parles d'actionnaires, effectivement, on est une société cotée en bourse. Les actionnaires, au début, ils ont regardé avec des gros yeux Ray Anderson quand il a voulu faire ça. Et avec beaucoup d'éducation, d'enseignement et de compréhension, ils ont vu également qu'on pouvait rester profitable avec cette stratégie, et voire même développer nos marchés, gagner de l'argent tout en faisant les choses
de la meilleure façon.
Ils l'ont très bien intégré, ils ont vu, hein, puisque depuis 25 ans, on reste leader. On est sur un marché mature où on aurait pu disparaître également, hein, face à d'autres types de sols, face à d'autres innovations. On est toujours là, on est toujours en croissance. Et les actionnaires ont très bien compris ce point et ne se posent même pas la question de l'euro investi, enfin du dollar d'ailleurs, pour eux. Mais le dollar investi, ils savent que ça va être un dollar investi pour faire bien les choses et encore plus se développer. Donc du coup, que ce soit en interne ou... Il y a une fierté. Donc en interne, moi le premier. Hein, honnêtement, s'il y a 8 ans, d'ailleurs, hein, quand je suis venu il y a 8 ans, j'ai resté 2 ans, je vais faire du marketing dans la moquette, je vais pas rester beaucoup plus longtemps. Si je suis encore là 8 ans après, c'est vraiment pour mission zéro. Pour déjà, deadline 2020, bon, je peux pas partir avant 2020 parce que je veux voir si on y arrive, mais il y a une fierté d'appartenir à une entreprise comme ça qui fait les choses belles, mais qui fait les choses bien. Et j'en suis le premier témoin. Et du coup, les actionnaires également et tous mes collègues, que ce soit en France ou à l'étranger, on essaye de porter le bébé.
Alors là, tu as commencé à voir les parties prenantes. On reviendra aux clients tout à l'heure. Mais, d'accord. Mais justement, là, tu as commencé à l'évoquer. Donc le PDG de Jay Gould, mm-hmm. quand il est arrivé, qu'il a commencé un peu à saisir le morceau, j'ai l'impression, ouais. J'imagine. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous vous êtes dit, ok, il faut devenir restaurateur, enfin mm-hmm. régénératif, peu importe. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, mission zéro, on envoie la deadline, entre guillemets.
On commence à voir la lumière. Et bien, il s'est dit, après une bonne année hein, quand même, hein, à lui montrer, lui expliquer de façon vraiment concrète, c'est dit, bah, ok, 2020, on va le faire, mission zéro, on va y arriver, mais je vais aller plus loin et je vais faire un nouvel engagement qui s'appelle maintenant Climate Tech Back et qui est vraiment, pour le résumer, avoir un vrai impact sur le réchauffement climatique et inverser la courbe du climat. Concrètement, c'est avoir un bilan carbone positif. Donc, ça passe par plusieurs points, par plusieurs nouveaux points qui vont structurer notre démarche. Mais l'idée, c'est de trouver des solutions pour séquestrer le carbone, pour émettre moins de carbone de ce dont on a besoin pour fabriquer nos produits. Et je pourrais revenir sur des exemples. Mais voilà, la transition, c'est vraiment par Jay Gould qu'on passe du zéro de Anderson, qui a été qui est toujours la lag. Grande ADN interface et ce zéro A.
Oui, et puis même qui a marqué plein de générations
d'industriels.
D'industriels, etc.
Et justement, ça c'est un point hyper important, c'est que dans la mission zéro, c'était changer l'industrie d'interface, changer l'industrie de la moquette. Avec Climate Tech Back, c'est de montrer que toutes les industries peuvent utiliser ce modèle pour avoir cet impact. Et c'est vraiment un des points importants, c'est Lead the Re-Revolution. Donc c'est vraiment... essayer de donner l'exemple à d'autres industries. Ce qui, jusque-là, même si on en a beaucoup parlé, et toi, tu as toujours été là à utiliser l'exemple interface, mais parfois, quand on sort de l'industrie moquette, les personnes et les industriels ont du mal à vouloir réadapter le process interface dans leur...
Ouais, et puis en plus, interface, vous vous adressez principalement à des professionnels, des architectes, etc. C'est ça. Donc c'est une marque qui, pour le grand public, n'est pas forcément très connue.
Très connue. Ouais. Mais pourtant, si une entreprise dépendante à 100% du pétrole, avec des produits comme les nôtres, qui sont certainement les produits les plus polluants au monde, est capable de le faire...
Ouais. Il y a bien pire, effectivement, c'est déjà très costaud.
Si on peut le faire, toute industrie devrait être en capacité de se transformer et de le faire.
Tout à fait.
Et même si c'était déjà d'actualité avec Mission Zéro, avec Climate Tech Back, c'est encore plus fort.
Et justement, t'as pas mal évoqué aussi ces premières initiatives avec Mission mm-hmm. Zéro, notamment dans les usines en Europe. Qu'est-ce que ça a entraîné en termes de première action, ce nouveau plan Climate Tech Back?
Alors pour l'instant, on n'en parle pas encore beaucoup. Donc les réactions, c'est plutôt des réactions en interne pour commencer à faire prendre conscience en interne à ce passage hein, du faire moins, faire mieux, à faire plus. Le passage déjà en interne. Tu sais, même moi, quand je dois expliquer le bilan à carbone négatif, là, je suis encore un peu parfois en train de m'emmêler les pinceaux entre positif et négatif. Mais bon, en tout cas, c'est les choses mieux. Et pour l'instant, c'est en interne. Déjà, si sur le marché, parce que bon, là, je te parle d'un point de vue communication et d'un point de vue marketing et stratégie environnementale, mais déjà, si sur le marché, nos clients avaient conscience de la grande force de Mission Zéro, ça serait déjà gagné. Donc avant de parler de climat tech back et de choses un peu plus théoriques, on préférerait tous que ce soit bien clair de ce qu'on a réussi à faire sur Mission Zéro. Et d'ailleurs, le premier point de climat tech back, c'est avoir le résultat de Mission Zéro. C'est-à-dire qu'il y a 4 points, le Life Zéro, c'est Mission Zéro. Et c'est d'aboutir en 2020 à zéro et continuer à le faire. Donc Mission Zéro, une partie intégrante de ça, et sur les 5 années à venir, ce sera la priorité, c'est-à-dire vraiment continuer d'avoir ces résultats et de les communiquer. D'un point de vue marché, d'un point de vue client, pour l'instant, on entend de plus en plus parler de bâtiments à énergie positive, de bâtiments autosuffisants, de maisons passives, même si nous, on n'est pas sur le secteur résidentiel, mais en tout cas, on en parle. Mm-hmm. Donc, Climate Tech Back parle, parce que l'emprunt, même avec les normes moins C+,
ouais.
On voit qu'il se passe quelque chose. Et du coup, je pense vraiment que même pour la France, où parfois on est un peu plus lent à intégrer les choses, mais par contre quand on les intègre, on y va à fond. Le sujet Climate Tech Back est tellement en ligne avec ce qui est en train de se passer et avec tout ce dont on parle sur le marché de la construction, qu'on va avoir je suis sûr qu'on va avoir un impact dès lors qu'on aura un produit concret. Tant qu'on n'a pas le produit concret, ça ne parlera pas.
Oui, et puis de toute façon, vous êtes sur des échelles industrielles qui sont déjà difficiles à bouger. Mmh. C'est pas du jour au lendemain que tu changes une ligne de production. Et puis effectivement, tant que tu n'as pas toute l'histoire du produit comme vous pouvez l'avoir sur Network, c'est très difficile de l'illustrer, de faire comprendre.
C'est ça, c'est ça. Là où, pour l'aléatoire aussi. L'aléatoire, c'était quelque chose de très très simple. Non, donc le design... Alors le design aléatoire, c'était un des premiers résultats du changement Mission Zéro. Donc quand on a mis en place les axes de Mission Zéro, on a été entouré par des experts, dont Janine Bénus. Donc Janine Bénus, la reine du biomimétisme. Et du coup, de façon assez simple, elle nous a dit, si vous voulez faire un produit durable, il va falloir que vous vous inspirez de la nature. Et donc du coup, de façon assez simple, nos designers sont partis quelques jours en forêt avec un seul objectif, c'est de revenir avec le produit qui serait créé par la nature. Donc du coup, ils sont partis en forêt. Pour te remettre dans le contexte, à l'époque, les dalles de moquette, parce que c'est des dalles, donc des carreaux de 50 par 50 cm, étaient toutes unies. Bon, certainement, le produit qu'on voit encore dans la majorité des bureaux, mais le gris, le bleu, uni, tout dans le même sens. Quand t'as une dalle qui est dans le mauvais sens, tu le vois tout de suite parce que c'est pas la même couleur. Ça fait... ouais. Et donc du coup, ça c'était le contexte. Et donc ils sont allés dans la forêt, et puis ils se sont rendus compte qu'en forêt, le sol est fait avec les feuilles des forêts, les feuilles des arbres. Elles sont toutes de couleurs différentes, de motifs différents, toutes dans des sens différents. On se dit pas, tiens, cette pièce, elle est au mauvais endroit, faut que je la remette là. Tout est harmonieux. Donc ils se sont dit, bon, faut qu'on fasse la même chose avec nos produits. Et du coup, ça a développé les produits à design aléatoire. En gros, toutes les dalles sont différentes. Tu peux les poser dans tous les sens, ce qui génère des gains de chute qui sont extraordinaires, puisque tout ce que tu coupes d'un côté, tu peux le placer de l'autre. Et surtout, à la maintenance, tu peux changer facilement les dalles.
Juste une dalle
et plus tout l'espace. Et comme...
juste pour qu'on ait des chiffres, excuse-moi, mais... On est de l'ordre de, si je me souviens bien, 5-10% de gain de chute
pendant l'installation. C'est ça, en fait, avec une dalle classique. Alors, du rouleau, tu es à 12% de chute, à peu près. Quand tu mets de la moquette en lait, c'est 12%. Quand tu as une dalle monolithique, donc tout posé dans le même sens, c'est 5-6%. Avec une dalle aléatoire, tu es à 1 à 2% de chute. Donc, c'est vraiment non négligeable. Également d'un point de vue esthétique, hein, pour les services généraux en termes de maintenance, c'est super puisque quand tu changes, t'as pas eu de problème de bain, t'as pas de recoloration, donc du coup tu vois pas que la dalle a été changée, donc ça économise aussi sur le reste de l'investissement du sol.
L'utilisation du produit, quoi.
Voilà. Et effectivement, on prolonge l'utilisation grâce au design aléatoire. Et aujourd'hui, ça a été quelque chose d'hyper concret parce que on voit tout de suite le bénéfice, c'est facile à expliquer. Et pour la France, on est à peu près à 40% de nos ventes, c'est des produits à design aléatoire maintenant.
D'accord. Okay.
Ce qui est énorme.
Ouais.
Et tous nos développements produits sont intègrent de l'aléatoire.
On s'y plaint, tout à fait. Et justement, on a beaucoup parlé de la fabrication, on a un petit peu parlé à l'instant de l'usage, enfin installation-usage. Est-ce que sur la fin de vie, tu veux nous en parler un peu? Parce que justement, à l'époque, Interface avait déjà développé cette fameuse machine dont j'ai oublié le
nom. Oui, Reentry.
Merci. Qui permet justement de prendre une dalle et de refaire une autre, ce qui était déjà assez, une grosse performance. Où on en est, ça, parce qu'il y a aussi le réemploi que vous avez quand même pas mal développé, en tout cas localement. Voilà, où on en est sur cette fin de vie du produit.
Alors je dirais presque que c'est le point noir de Mission Zéro. C'est, en fait, on a tout. Tout le programme, tous les processus sont en place, mais ils ne sont pas utilisés. En gros, effectivement, comme tu en parles, on propose toujours à nos clients, sous ce nom Reentry, qui est le programme finalement de fin de vie de nos produits, trois options. Pour éviter la décharge, on essaye de proposer le réemploi quand c'est possible, le recyclage quand le réemploi n'est pas possible, et si aucune des deux options n'est possible, la revalorisation énergétique. Donc ça, vraiment, c'est ce qu'on propose à nos clients. On a cette machine qui est capable d'intégrer tous les produits à sous-couche bitume et recycler la fibre en fibre, la sous-couche en sous-couche. Donc dans la dalle, hein, tu as deux parties, la fibre au-dessus, la sous-couche dessous. Le point bloquant avant cette machine, c'était on était incapable de séparer les deux et on était obligé de faire un mélange et recréer et réutiliser ailleurs. Donc là, la machine est capable de le faire. Maintenant, tout le système de logistique inversée est parfois assez complexe et surtout, on est au quotidien, on vend les produits et on a beau proposer le service pour ce qui est déjà en place, c'est toujours compliqué de la part du client de s'occuper du sol, de la cloison, du plafond, et donc du coup on se trouve face à ce blocage. Donc là on est vraiment en train d'étudier et de travailler les différentes possibilités, voir si on peut pas proposer directement la fin de vie dès qu'on vend notre produit, parce que pour nous ce serait une des solutions. C'est compliqué.
C'est compliqué quand t'as un produit qui dure 5, 10, 15, 20 ans, quoi.
C'est bon, même plus. Nous, tu sais, ils sont garantis 15 ans et on a souvent des produits qui sont là depuis plus de 20 ans, donc du coup les services généraux des entreprises n'ont pas du tout conscience de qui est le fabricant du produit
et puis qui a signé le bon de commande il y a 20 ans.
Exactement. Donc là aujourd'hui on travaille avec on a un réseau d'associations en France qui sont capables de récupérer. Maintenant il faut qu'on les alimente, là on a un premier petit blocage sur la région Île-de-France. Parce que oui, je te parle que pour Paris. Évidemment, en Hollande, là où il y a notre machine, c'est beaucoup plus simple. On renvoie directement à l'usine et c'est bon. Mais vraiment, pour la France, on travaille avec l'association ARES, qui est capable justement de venir récupérer les palettes, de les prendre, de les nettoyer et de voir ce qu'on en fait. Est-ce qu'on les prolonge et tout ça. Donc, tout est en place. Maintenant, c'est un travail de communication et de prise de conscience chez nos clients qu'il est possible de faire quelque chose avec la moquette et pas de demander un curage du bâtiment entier avec sol plus cloison plus plafond et plus mobilier. Souvent, on pense au mobilier et on pense pas à tout ce qu'il y a autour. Et maintenant, c'est tout un... C'est...
En plus que sur le mobilier, il y a Adopte un bureau.
Il y a Adopte un bureau avec qui on a travaillé plusieurs fois.
Qu'on avait été rencontrés pour le troisième épisode. Passionnant.
Ah, Christophe. Aussi.
Ouais, Christophe a été vraiment excellent dans cet épisode. C'est un des épisodes les plus écoutés du podcast d'ailleurs.
D'accord.
Et effectivement, il nous racontait déjà l'année dernière comment il arrivait à changer le business model des gros acteurs du mobilier de bureau et comment il arrivait presque à rendre hors. Enfin, les sortir de la compétition, les acteurs, disons, les moins faisants. Quoi.
Mm-hmm.
Donc, effectivement, il y a des solutions clés en main du début à la fin, presque.
Elles sont là. Nous, elles marchent, elles fonctionnent énormément sur certains marchés. On voit que, par exemple, aux États-Unis, en Californie, ça explose. Là où tu as de la régulation, là où l'État est beaucoup plus impliqué. Mais quand je dis l'État, c'est vraiment l'État californien qui, par rapport au reste des États-Unis, c'est super. En Hollande, c'est super. Écoute, là, ce que je peux te dire, c'est qu'en France, c'est un de nos projets pilotes. C'est-à-dire que sur 2019 et 2020, c'est notre priorité, c'est la fin de vie. Faire prendre conscience à nos clients de ce programme. Deux, de leur montrer qu'on a tout, la logistique inversée est là. On a des personnes dans nos services qui sont capables de les aider. Il faut juste que tout soit là au bon moment et on peut le faire. En attendant, il y a toujours une option qui est privilégiée par rapport à la décharge pour nous et on communique dessus, c'est Optimum, qui est une solution partagée avec nos confrères du revêtement de sol, qui peut récupérer les produits et faire de la valorisation énergétique. Donc c'est l'option préférée à la mise en décharge. Mais on aimerait bien.
C'est pas encore super voilà, vertueux, mais surtout, d'autant plus quand il y a des solutions plus intéressantes
c'est
qui sont à disposition.
C'est ça. Donc, c'est le point quand on arrive à. De toute façon, quand je te disais qu'on avait réduit de 66% notre empreinte carbone dans les 34% restants, tu as la fin de vie. Il y a ça aussi qui prend la place et qui doit trouver une solution rapidement et ça sera vraiment notre priorité.
Ouais, complètement. D'autant plus que, si je me souviens bien, je crois que c'est en Europe, il y a l'équivalent de la rive gauche de Paris en moquette, qui chaque année finit en décharge.
Alors le gros problème de ce chiffre, qui est vrai, c'est que dedans, tu as tous les aiguilletés, les produits qui sont faits sur les événements, tous les salons, toutes ces choses-là. Là, c'est assez drôle parce que c'est souvent les... Enfin drôle, non, c'est pas drôle, mais c'est souvent ceux qui font qui sont montrés du doigt. Il y a eu un rapport, il y a un an ou deux, était sorti sur...
Il y a une journaliste qui m'avait appris sur le sujet.
Ah, bah voilà. c'est un très bon rapport, hein, parce que...
Oui. C'était un rapport qui était fait par une ONG, c'était Zero Waste.
Oui, c'était Zero Waste. Et du coup, le rapport est vrai, sauf qu'il mélange tout type de moquettes. Et les moquettes qui sont utilisées sur un salon, mais ça représente des quantités astronomiques par rapport au.
Pas du tout, parce que vous n'êtes pas sur ce
On n'est pas du tout sur ce marché, et d'ailleurs, ni notre confrère qui a également été montré du doigt dans ce, dans ce rapport.
Mais alors, justement, ça m'amène à un autre sujet qui peut s'appliquer sur le salon, mais de souvenirs que vous aviez testés, c'est tout ce qui était location également.
On avait discuté il y a quelques temps vraiment sur un procédé de leasing de la moquette. Alors il y avait des contraintes juridiques sur la valeur résiduelle du produit. À savoir que nos produits, une fois qu'ils sont vendus et mis en place, n'ont plus, entre guillemets, de valeur résiduelle. Se disant on ne peut plus faire quoi que ce soit, contrairement à un ordinateur ou une voiture ou quelque chose qu'on peut louer. Donc du coup, d'un point de vue juridique, on ne peut pas faire en tant que fabricant de la location. Maintenant, les choses sont en train de changer. On a déjà entendu des nouvelles réglementations. On travaille avec des partenaires qui, eux, vendent le service de maintenance, d'installation. Je pense à Textiflore sur la région nord de la France, qui, du coup, nous achète nos produits et vend le service de maintenance et de location. Donc ça, on peut le faire. On aimerait quand même développer à plus grande échelle. C'est un des points de réflexion sur la fin de vie et sur l'utilisation et l'usage plutôt que...
Oui, surtout que j'entends de plus en plus des options de rachat garanti aussi en fonction de l'état du produit,
c'est
etc.
C'est ça. Sauf que s'il n'y a plus de valeur résiduelle, l'achat garanti sera à zéro et pas...
Oui, tout à fait. Mais je pensais qu'avec les nouvelles réglementations que tu évoquais, il y avait peut-être quelque chose à faire là-dessus.
Il va y en avoir là. Je pense qu'il y a des choses qui vont se développer et ça sera une des solutions.
Et tous ces efforts en fait qui sont portés sur le produit, sur l'expérience également de l'utilisateur, est-ce que ça devient des véritables leviers par rapport à vos prescripteurs qui sont très importants, je suppose, pour une entreprise qui est principalement pour les professionnels, enfin qui vont aux professionnels, et est-ce qu'éventuellement les clients finaux font appel à des produits interface?
Oui.
Mais alors, voilà, est-ce que ça devient, tous ces efforts, est-ce que ça devient vraiment un levier commercial?
C'est un levier commercial. De toute façon, tu as un vrai avantage compétitif, puisqu'on est dans une, comme je disais tout à l'heure, dans un marché qui est en train d'évoluer. Tu veux un bâtiment qui sera certifié HQE. Il va falloir choisir les matériaux les plus adaptés et du coup, avec les meilleurs résultats. Donc, c'est clairement bénéfique. Tu parlais justement des utilisateurs finaux qui vont demander du interface ou un matériau en particulier. Oui, ça arrive de plus en plus. Via notre... aujourd'hui, tous nos sols sont neutres en carbone. Je disais qu'on avait réduit de 66%. Le restant, pour l'instant, c'est de la compensation. Donc du coup, l'idée étant d'avoir zéro compensation, mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, quelle que soit la collection, quel que soit le produit, tout est neutre en carbone, puisque systématiquement, sur le restant, on investit dans des projets de reforestation, d'éolien, et tout ça. Donc ça, un client qui change ses bureaux et qui veut choisir une solution durable, sait qu'en choisissant l'interface, il aura un certificat sur sa surface qui montre son engagement dans un choix d'un produit beaucoup plus durable, puisque transformation au maximum actuellement sur ce qu'on peut faire et le reste en compensation. Ça, donc c'est hyper important. Des services généraux ou une entreprise qui fait le choix de matériaux responsables dans l'aménagement de son bureau privilégiera une entreprise qui est capable de fournir ça et d'avoir, on est les seuls aujourd'hui à proposer un sol neutre en carbone. Donc eux, ils peuvent, ils ont le pouvoir, ils ne le font pas assez. Hein, parce que si les clients le faisaient assez et changeaient parfois la prescription d'un archi qui a moins connaissance de ces matières.
Moins attentif à cet aspect, ouais, tout à fait.
Enfin, je te parlais de l'EPD, donc la fiche de déclaration environnementale, c'est 40 pages à lire. L'archi ne va pas lire les 40 pages pour comprendre l'empreinte carbone de son produit par rapport à un autre.
Surtout s'il en a 20 au même endroit.
Voilà, exactement. Donc il y a tout un travail, mais oui, les clients qui changent leur bureau, qui aménagent leur bureau, qui vont vouloir apporter du bien-être aux salariés, mais également un vrai choix de matériel durable, oui, ils ont un pouvoir, et oui, c'est par eux, un, qu'on pourra faire la prescription d'un produit plus durable, mais deux, c'est par eux qu'on pourra faire la récupération en fin de vie, et il faut qu'ils en aient conscience. Donc du coup, il y a un vrai, vrai impact, et nous, on essaye de travailler sur ça aujourd'hui. Et après tu auras toujours, d'un point de vue client, la problématique de prix, qui sera toujours là.
Bien sûr.
Et qui reste le point essentiel, au-delà de l'esthétique et du design.
Il y a aussi la qualité, et puis quand on parle de durabilité, c'est aussi la fiabilité, entre guillemets.
C'est ça, la fiabilité, là. Et c'est un point hyper important, c'est-à-dire que nous, nos produits sont chers, qu'ils soient durables ou pas, c'est les spécificités techniques des produits interface sont chères. Par contre, on ne veut pas que nos produits durables soient plus chers qu'un produit vierge. On ne veut pas que le client se dise « Ah, mais pour avoir ma solution durable, je paye plus. » Non, tout est au même prix, c'est juste qu'on essaye d'intégrer les performances environnementales dans tous les produits, que ce soit notre entrée de gamme à notre haut de gamme, avec un entrée de gamme qui est déjà presque du haut de gamme de la concurrence. Mais ça, c'est un point important, parce que oui, des gros projets de tour, on peut en perdre tous les jours parce qu'on va être trop cher, mais l'idée est là, c'est que le produit est de qualité et le produit, même dans l'entrée de gamme, va essayer d'intégrer au maximum du recyclé, va essayer d'intégrer au maximum l'aléatoire et ce genre de choses.
Ouais, et puis des projets de capture de carbone, etc.
C'est ça. Mais après, voilà, oui, le projet sera plus cher, mais tu vas investir sur 15 ans, là où à côté, tu peux investir sur 7 à 8 ans. On est dans un marché où souvent la moquette est changée entre 7 et 9 ans, hein, pour changement de locataire, changement de locataire, on refait tout, et comme tu as le bail de 3, 6, exactement, la charte graphique, ce qui est souvent dommage parce que le produit est en bon état, mais il faut investir dans un produit qui va être... C'est d'ailleurs le premier... On n'en a même pas parlé au début, mais avoir une stratégie durable, c'est fournir des produits durables et durables dans le temps, qui vont tenir et de qualité.
Carrément. Et je pose souvent cette question-là, mais en tant que responsable marketing d'une entreprise qui a fait ses preuves dans le domaine, quel conseil tu pourrais donner aux autres professionnels qui ont besoin justement de transformer leurs entreprises avec l'économie circulaire générative? Quels sont un peu les trois conseils qui te viendraient à l'esprit pour réussir ce changement?
Alors déjà, c'est énormément s'inspirer de ce qui a été fait. Alors oui, s'inspirer d'interface si c'est dans l'industrie, parce que bon, c'est un bon modèle, mais même ailleurs, parler. Discuter avec les autres entreprises qui sont dans le process de changement ou qui ont déjà amorcé le changement depuis pas mal de temps, parce que on se rend vraiment compte à quel point c'est les choses les plus simples qui ont fonctionné dans la stratégie. Alors oui, changer les machines, changer l'industrie, on parle d'autre chose, mais l'idée de l'aléatoire, c'est quelque chose d'hyper simple. Merci. Et du coup, dans tout type d'industrie, on peut trouver quelque chose de simple, souvent inspiré de la nature, pour refaire la petite part du biomimétisme, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'hyper important. Donc, premier conseil, s'inspirer des autres, s'inspirer de la nature et voir ce qui se fait. Le deuxième, alors c'est quelque chose, attention, la casquette marketing va te dire ce que moi j'ai souvent regretté, mais on n'en parle pas assez. Nous, chez Interface, il y avait une de nos campagnes, c'était Just the Fact, hein, c'est vraiment, on dit juste ce qu'on a fait, on parle pas plus, on veut pas faire de greenwashing. Et tu sais, quand j'ai souvent les commerciaux, mais c'est pas possible, ça c'est super, on en parle pas assez. Oui, mais on en parle pas assez parce que c'est pas le but. On veut faire les choses bien, on veut parler que de ce qu'on connaît. Et on a souvent été qualifié d'un peu frileux par rapport à des confrères.
Super puriste, quoi.
Et je
vois ce que tu veux dire.
Tu vois ce que...
On a eu un peu les mêmes défauts chez Wita.
Bah ouais, et en même temps, on résiste, on est là et ça fonctionne. Et je ne regrette pas aujourd'hui d'en avoir moins parlé parce qu'on commence à voir vraiment les fruits. Alors oui, sur le coup, ça
on va te dire de grands mots,
mais oui, ça amène de la frustration. Surtout quand on voit parfois des communications de l'autre côté qui sont des grands waouh, alors qu'en fait, c'est quelque chose qu'on a fait il y a 15 ans.
Avec des grands coups de label.
Les labels, entre autres. Voilà. Donc,
pour y revenir.
Voilà, on en reviendra pas dessus, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, est important. Il faut faire la transformation. À l'intérieur, il faut être sûr de ce qu'on a fait pour ensuite communiquer et montrer ce qu'on peut faire. Et puis, le troisième point, c'est pas un conseil, mais c'est vraiment... c'est tellement plus agréable de travailler dans une entreprise qui a du sens. Hein. Aujourd'hui, je suis entre les générations, la génération de « je travaille que pour les entreprises qui a du sens » et la génération au-dessus qui était pour le business. Moi, je suis plus le point entre les deux. Et je suis vraiment l'exemple de « oui, si je travaille pour cette entreprise, j'ai du sens, mais toutes les entreprises peuvent avoir du sens. » Et du coup, oui, il faut que le PDG, oui, il faut que le directeur prenne la main, et on a de la chance d'avoir ces directeurs-là qui prennent les projets à bras le corps et qui le défendent. Mais du coup... tous les autres responsables marketing, vous êtes dans toutes les autres entreprises, que ce soit dans les cosmétiques, dans l'agroalimentaire, dans quoi que ce soit, vous pouvez aller parler au directeur et montrer que des choses simples peuvent être faites pour changer le marché. Et allez en parler parce que vous et vos équipes auront vraiment plus d'intérêt à travailler pour votre entreprise.
Bon, bah nickel. Voilà. Est-ce que t'as quelque chose à ajouter? Peut-être un événement à venir
Bah écoute, non, ce matin on était sur Sustainable Brands, donc du coup c'était top de voir à quel point Interface est connue à l'étranger et puis parfois en France. Hein, je sais pas si t'étais là au moment où tout le monde a levé les mains dans la salle. Est-ce que vous connaissez Interface d'habitude? T'étais pas arrivé. Bah écoute, d'habitude c'est une question quand je fais des conférences, qui connaît Interface? J'ai 3 personnes qui lèvent la main, les personnes qui organisent la conférence en général. Et puis alors après c'est rien. Et là bah c'était super intéressant de voir que dans une salle qui était beaucoup plus mix en termes de nationalité, la moitié de la salle avait la main.
Un sacré public d'initié aussi.
Ben c'est pour ça, et c'est ça. Mais c'est triste. Il faut se dire que en France, on veut être connu. Et non, écoute, en événement, on est présent sur tout ce qui est archi bâtiment, donc tout le monde peut venir nous voir. Là, le prochain que j'ai en date, ce sera Architecte à Tours à Marseille. Donc, faut pas hésiter en juin de venir nous voir pour nos clients du sud de la France qui veulent parler. En plus, un Niçois d'origine, venez me parler, je vous vois. Ce sera plus simple.
Bon, bah nickel. Bah, un grand merci, Mickaël, pour l'accueil. Et puis, bonne continuation.
Ben, merci beaucoup, Rio.
Ciao, ciao.
Au revoir.
Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin.
Partagez-le autour de vous et notez-le 5 étoiles sur iTunes pour le diffuser auprès du plus grand nombre. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet épisode, notre invité ou nos services, contactez-nous par mail à hello@circulab.com.
C'était Justine Laurent et Brio Safré pour le podcast Activer l'économie circulaire. À bientôt pour un prochain épisode.